Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. C'est donc Cristiano Ronaldo qui a été sacré Ballon d'Or. C'était il y a un peu moins d'une heure, 40 minutes très exactement. Et c'est loin d'être une surprise, le Portugais ayant dominé comme jamais l'année 2016, d'après les spécialistes. Trois grandes victoires, le championnat espagnol, la Ligue des Champions et puis l'Euro de football. Une saison qui aurait dû être la plus belle de sa carrière, mais c'était sans compter sur la pugnacité d'un lanceur d'alerte et puis de plusieurs médias européens qui publient au compte-gouttes depuis quelques jours des footleaks, comme on les appelle, des révélations basées sur 18 millions de documents, révélations sur les coulisses, peu reluisantes, on va en parler du foot business, l'histoire d'un sport rongé par la fièvre, du profit, c'est ce qu'écrit Mediapart, évasion fiscale, paradis fiscaux, conflits d'intérêts, commissions occultes, exploitation de joueurs mineurs, financiers aux connexions mafieuses. De nombreux noms sont apparus dans les enquêtes qui ont été publiées au compte-gouttes, Paul Pogba, je vais y arriver, pardon. Dans les derniers, l'entraîneur José Mourinho ou encore Cristiano Ronaldo, et la liste est loin d'être exhaustive. Alors Footleaks, le monde du football, est-il pourri? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Michael Eichenberg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Mediapart, qui fait partie des médias dont je parlais, qui publie ses Footleaks en France. Étienne Moiti, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au journal Équipe. Alors vous ne publiez pas de révélations, mais vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je rappelle pour nos auditeurs à l'international que l'Équipe, c'est le grand quotidien sportif français et vous écrivez notamment sur l'économie du sport. Alors, Michael Eichenberg, je vais d'abord évidemment vous faire réagir à ce Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il le mérite ou est-ce que vous auriez aimé, vous considérez que ça aurait été bien, que les révélations aient un impact sur cette récompense qui vient d'être attribuée?
Oui, ça aurait été très bien. Pourquoi on révèle des informations de ce type? Parce qu'on pense qu'elles sont d'intérêt général et parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de systémique dans le football mondial et que donc il fallait une prise de conscience. Et la prise de conscience, bah, finalement, réfléchir à est-ce qu'on donne une récompense à un joueur qui a eu un tel comportement, peut-être que ça aurait aidé à une telle prise de conscience, à faire réfléchir les joueurs, les agents, les présidents de clubs.
Surtout quand on sait qu'on reproche souvent aux footballeurs de ne pas chanter la Marseillaise ou d'autres comportements de ce type. Et là,
oui, par ailleurs, mais souvent, on le voit que ce n'est pas propre au football ou au sport. Hein, de manière avec l'évasion fiscale dans un certain nombre de pays, dont la France, on a tendance à considérer que c'est pas si grave. Donc là, oui, Ballon d'Or, il aurait pu être nommé Ballon d'Argent aussi, ça aurait été peut-être plus juste dans son cas, puisque comme on l'a expliqué, pour ceux qui ne nous ont pas lu, il a quand même placé 150 millions dans des paradis fiscaux, ce qui est une fortune colossale, hein, issue de ses droits à l'image, c'est-à-dire l'argent qu'il gagne par le sponsoring, la publicité. C'est très difficile en fait de cacher l'argent qu'on gagne en salaire. Donc l'argent du Real, a priori, tout est déclaré à l'administration fiscale. En revanche là, ils ont mis au point, grâce à son agent Jorge Mendes, ouais, qui est un agent
super puissant, on va y revenir sur le montage,
un système qui leur a permis de dissimuler de l'argent.
Étienne Moiti, votre réaction à ce Ballon d'Or, alors bon, c'est pas une surprise, mais pas trop sur l'aspect sportif par rapport à ces révélations. Vous trouvez que c'est normal? Vous vous attendiez à quelque chose?
Écoutez, s'il n'avait pas fallu le donner à Ronaldo, il fallait forcément le donner au deuxième. C'est, je crois, Lionel Messi. Et Lionel Messi, il est impliqué dans de vastes opérations d'évasion fiscale donc à Barcelone avec son club. Et puis les autres, ceux qui suivent sur la liste, finalement, sont pas beaucoup plus vertueux que Cristiano Ronaldo. Donc finalement, il valait mieux s'en tenir à l'aspect sportif pour le Ballon d'Or. Et puis pour le reste, on va en parler maintenant.
Alors, Michael Eichenberg, justement, selon vos enquêtes, c'est ce que vous disiez, Cristiano Ronaldo a dissimulé 150 millions d'euros, un peu moins, je crois, dans des paradis fiscaux, avec l'aide de cet agent que vous avez nommé, Jorge Mendes, dont on dit qu'il est le plus important du monde, un peu la référence, qui aurait lui-même organisé un réseau d'évasion fiscale pour 7 clients les plus riches. Est-ce que pour vous, c'est le symbole d'un foot business ou bien c'est le symbole d'une dérive du foot business?
Nous, on voit un bout de la lorgnette, hein, c'est une lucarne. On n'a pas les 18 millions de documents, ça paraît énorme, mais malgré tout, on voit que certaines filières, certains réseaux, on en voit suffisamment des différents, avec différents agents, différents dans différents pays, etc., pour se dire que c'est quelque chose qui est assez répandu. De là à dire que c'est généralisé, non. Il y a des joueurs qui ont un comportement sain, probablement des agents aussi qui font très bien leur métier, etc. Mais ce qu'on découvre un petit peu, ou alors peut-être on était naïf, mais en tout cas c'est la première fois qu'on peut le documenter de la sorte, c'est que l'absence de contrôle fait que bah tout est permis. Puisque finalement il n'y a pas d'agent qui tape, la FIFA c'est peut-être pas son rôle, en tout cas elle le voit pas comme sa mission, elle a ni l'envie, ni les compétences pour le faire. Les administrations fiscales, bah, comme souvent dans ce type d'affaires, sont dépassées. Et donc, du coup, bah, il y a une forme d'impunité. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui s'est répandu, au point que ça n'interroge plus grand monde dans le milieu.
Je pense qu'il n'y a pas le moindre doute sur le fait que ce soit un système généralisé. Toutes les révélations qui viennent d'être faites aujourd'hui par Mediapart et par d'autres le prouvent. Il y a des dizaines de joueurs donc, qui sont concernés, et pour des sommes qui sont absolument considérables. Et c'est tellement généralisé que c'est un système qui est en fait extrêmement ancien. C'est même pas simplement le foot business qui l'a créé, parce que moi j'ai le privilège ou finalement la peine d'être journaliste depuis assez longtemps et de suivre ces dossiers-là. Des histoires de droit à l'image et des détournements avec le droit à l'image, c'est quasiment vieux comme le football. C'est-à-dire que même quand les joueurs gagnaient très peu d'argent, et notamment en France, on inventait des espèces de droits à l'image, des faux contrats publicitaires pour payer les joueurs une partie de leur rémunération, parce que ça permet tout simplement d'échapper donc aux charges sociales, aux charges patronales, et puis ça permet donc pour les joueurs...
Donc ce que vous nous dites, c'est que c'est un petit peu une culture du secteur, c'est
absolument,
ça ?
Absolument, c'est une culture du football depuis très très longtemps. Alors avant, on s'était fait à la petite semaine, donc avec ce qui n'était pas encore véritablement des agents, simplement de vagues conseillers et des clubs malfaisants donc qui payaient comme ça leurs joueurs sur une partie de leur rémunération. Et puis aujourd'hui, c'est un système, comme ça vient d'être dit, totalement généralisé et sur des montants considérables, pour des sommes 150 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. Et il faut quand même si il y a beaucoup d'argent dans le football, ça reste quand même considérable.
Alors vous dites système généralisé, je peux pas ne pas vous poser la question. On a choisi cet intitulé un peu choc pour l'émission. Tous pourris, c'est quand même sévère. Vous iriez jusque là?
Non, la question n'est pas de dire que c'est tous pourris. C'est un système où évidemment donc les joueurs essayent d'échapper à l'impôt, mais c'est aussi un système qui permet aux clubs, donc par des systèmes où on paye en fait de faux droit d'image, parce que là, pour les joueurs dont on parle, il y en a certains, évidemment, il s'agit de vrais contrats. Cristiano Ronaldo, on le voit dans de nombreuses publicités, on ne doute pas qu'il ait énormément de marques qui courent après lui, mais il y a beaucoup de joueurs, en fait, pour lesquels ce sont des faux contrats d'image, qui servent tout simplement, par le biais d'un équipementier, par le biais d'une marque amie, de faire une rémunération qui échappe, comme je disais tout à l'heure, et aux charges et à l'impôt.
Alors, Michael Eschdenberg, il y a une question aussi derrière tout ça, c'est en fait, qui est responsable? Est-ce que ce sont les joueurs qui signent finalement ces contrats? Est-ce que ce sont les clubs, comme vient de le dire Étienne Moati? Est-ce que ce sont les agents? Vous en avez parlé aussi. Est-ce qu'on arrive à savoir, est-ce que des documents là que vous avez épluchés, alors 18 millions c'est énorme, hein, je crois savoir qu'il y en avait un paquet qui en fait n'était pas si intéressant, mais dans ce que vous avez pu consulter, est-ce qu'on détermine une responsabilité particulière de l'un ou l'autre de ces acteurs?
Là, c'est une question très compliquée en fait, hein. C'est un peu du cas par cas. On n'est pas dans la tête des joueurs. Donc, sur un document, on voit qu'un joueur signe. Donc, une signature, c'est le signe de sa responsabilité. Après, dire qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, qu'il le souhaitait, qu'il l'avait pensé, qu'il l'avait demandé, c'est des stades de réflexion qu'on n'a pas. Donc, ce qu'on voit parfois par des échanges, c'est qu'il y a cette volonté qui apparaît. Par exemple, on a enquêté sur Angel Di Maria, qui est une des stars du Paris Saint-Germain, qui est un joueur argentin. Et lui, on a des échanges, en fait, où ses représentants disent « Angel ne souhaite pas que son nom apparaisse dans le contrat ». Donc, on voit qu'il est tout à fait conscient qu'il est en train de faire quelque chose d'illégal, qu'il ne souhaite pas que ça apparaisse, etc. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de Paul Pogba, hein, l'international français. Paul Pogba, c'est un type qui, depuis son plus jeune âge, hein, depuis adolescent, est lié à un agent qui lui a fait signer un truc qui est finalement pas si avantageux que ça pour Pogba, hein, puisqu'il n'était censé toucher l'argent qu'en 2029, Paul Pogba, pendant que son agent, lui, historique, s'engraissait année après année. Donc on voit qu'il s'est fait en partie avoir et qu'il est pris dans un conflit entre agents ensuite où on finit par lui ouvrir des sociétés dans des pays, dans des paradis fiscaux. Alors, est-ce qu'il savait précisément ce qu'il faisait? Est-ce qu'il l'a souhaité? Est-ce qu'il l'a accepté? Est-ce qu'il a fermé les yeux? C'est compliqué.
Et vous les avez contactés, par exemple?
Oui, mais ils refusent de nous parler. Alors voilà,
c'est vrai que... Par principe, ils vous disent non, ils se dédouanent même pas.
Par principe ou pas. C'est vrai que Paul Pogba nous dirait, bah oui, je me suis laissé avoir, j'ai pas fait gaffe, ou je sais pas quoi. Bon, on pourrait accéder à un stade de compréhension, mais là, effectivement, on a rien en face. Donc, ça les aide pas. C'est pas la meilleure des défenses. Et c'est vrai que bon, il y avait une époque où on disait, il y a des joueurs de Marseille qui disaient, bon, avant les matchs, on nous mettait une seringue dans les fesses. Bon, bah, à ce moment-là, un joueur, soit il demande ce qu'il y a dans la seringue, soit pas. Soit il a envie de savoir ce qu'on lui fait signer, soit pas. Et c'est vrai que bon, il est déjà responsable s'il veut pas savoir.
Alors, Étienne Moati, vous qui travaillez sur le business, l'économie du sport, est-ce qu'on sait un petit peu comment ça se passe?
Le cas de Pogba a été évoqué. Évidemment, c'est une bulle spéculative et c'est aussi, évidemment, avec des agents qui s'engraissent au sens propre comme au sens figuré, concernant d'ailleurs l'agent de Paul Pogba, parce que c'est Mino Raiola. Il a énormément donc et de pouvoir et d'entre-gens, mais c'est quelqu'un qu'il faut savoir. Quand Paul Pogba, donc ce qui est évoqué donc par Mediapart, était à la Juventus Turin, le club italien, l'agent a gagné autant d'argent, c'est-à-dire 10 millions d'euros, qu'en a gagné Paul Pogba pendant cette période-là. Donc ça paraît totalement incroyable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le football, c'est devenu une bulle spéculative qui profite un petit peu à tout le monde, sauf finalement au public, parce que le public, il a quoi, les tickets pour entrer dans les stades, qui sont de plus en plus chers, et c'est pas du populisme que de le dire, parce qu'aujourd'hui, pour entrer dans des clubs et dans des stades anglais, par exemple, ce sont des sommes absolument considérables, ça commence à être le cas un petit peu en France, et l'abonné à une chaîne de télévision, c'est ça finalement qui paye aujourd'hui toutes ces sommes-là. Aujourd'hui, il est obligé de payer donc des contrats de télévision et des droits donc pour avoir les matchs à la télévision. S'il n'y avait pas toute cette bulle spéculative, peut-être ça coûterait moins cher dans les stades, peut-être ça coûterait moins cher pour regarder des matchs à la télé.
Et en même temps,
Étienne Moati cite l'exemple de Mino Raiola qui a touché 10 millions sur ses 4 années, mais il touche en plus 27 millions en plus de ces 10 millions au moment où Paul Pogba est transféré de la Juventus vers Manchester. C'est-à-dire qu'il s'est fait, la Juventus de Turin lui a versé 37 millions d'euros. Faut se rendre compte quand même de ce que c'est. On perd un peu la notion des chiffres, mais c'est absolument colossal.
Et c'est un système donc qui provoque l'inflation et qui génère aussi la corruption, parce que on vous explique toujours donc les syndicats de joueurs de foot, notamment par exemple Philippe Piat, qui connaît ça très bien depuis très longtemps. Il dit mais c'est quand même curieux que les présidents de club, ils veulent toujours donc que ce soit eux-mêmes qui payent l'agent au moment du transfert. C'est ce qui vient d'être évoqué. Par exemple, Mino Raiola, il touche 27 millions d'euros sur une transaction. On pourrait imaginer que le club ait envie que ce soit plutôt le joueur, comme c'est le cas d'ailleurs dans le spectacle, qui paye son agent. Ben non. Et il dit toujours, mais si c'est ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et ce qui sous-entend évidemment, et ça existe dans le football, c'est qu'il y a des rétrocommissions. Et donc, cet argent donc qui sort, qui part vers l'argent, évidemment, à un moment donné, il revient à celui qui est le donneur d'ordre, c'est-à-dire le club.
Et ces dérives, elles existent, après on revient au football, hein, mais juste dans le football ou c'est le cas plus largement dans d'autres secteurs sportifs qui génèrent beaucoup de profits ?
Bon, on se rend compte de plus en plus qu'il y a peu de sports vertueux et que le football n'a pas tous les vices. Maintenant, dans le football, les sommes sont tellement importantes que la tentation est d'autant plus forte et que quand on évoque sur une transaction un pourcentage qui vous amène à toucher 27 millions d'euros, il y a quand même peu de sports aujourd'hui, à part le football, qui peuvent le générer.
Alors, Michael Eschdenberg, quand même, on a adressé quelques reproches à ces révélations qui ont commencé il y a une dizaine de jours. Alors la première, c'est vous avez découvert l'eau chaude, vous en avez parlé au début. Bon, peut-être que on pêchait par naïveté. Bon, voilà, ça c'est une première. Mais la seconde, c'est que vous êtes peut-être servi de documents qui ont été volés à l'origine. Alors c'est pas vous qui en avez fait la commande. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous critiquent sur ce point-là ?
Vous savez, nous, les journalistes, en fait, notre travail, c'est de révéler des faits. Les sources sont parfois pures, parfois pas totalement. Une source, elle peut avoir tout un tas de motivations. Là, John, qui se fait appeler John, c'est
pas son vrai nom. Alors, l'occurrence, donc, vous ne le connaissez pas.
Je ne le connais pas, et mes collègues de Mediapart non plus, puisqu'il a choisi de donner ces informations à un seul journaliste, pour se protéger, qui est un journaliste du Spiegel. Donc, c'est le Spiegel, à la base, qui a eu l'information.
Journal allemand.
Journal allemand, magazine très réputé, qui fait partie de ce consortium, le IC, auquel appartient Mediapart, et donc qui a choisi, face à la masse de documents qu'il y avait, comme on le fait à chaque fois qu'un de ces journaux a accès à une telle masse d'informations, de les partager. Donc John, il dit, moi, j'ai rien volé, et j'ai voulu révéler à la face du monde ce que c'était la face cachée du football. Nous, on a enquêté sur John, il y a une plainte contre lui, on a exposé les faits à nos lecteurs. Voilà, je peux pas vous dire John est un homme parfaitement intègre.
Vous,
ou bien
vous êtes
il a fait une bêtise.
Partie de certaines révélations pour enquêter derrière
voilà,
dessus.
Ce qu'on sait, c'est que le matériau qu'il nous a donné, on a vérifié, on a cherché à savoir s'il était exact. On a fait multiples vérifications. On a passé 7 mois à confronter les personnes mises en cause, à recouper les informations, et tout était juste. Il n'y a pas une seule information qui a été remise en cause. D'ailleurs, depuis qu'on les a publiées, l'administration fiscale espagnole les a validées. Donc c'était ça qui nous importait.
Étienne Moiti fait oui de la tête.
Oui, non, mais c'est ça qui est important. Je suis complètement d'accord. La source, forcément, elle doit être protégée. L'important, c'est de savoir si ces révélations sont justes ou pas. Elles ne surprennent personne dans le cas du football, mais leur ampleur et la précision de ce qui est révélé, c'est extrêmement intéressant. Moi, je suis dans le football et dans l'économie du football depuis 25 ans. Ça me passionne de lire tout ce que je lis en ce moment. C'est-à-dire qu'on a beau subodorer des choses, on a beau en connaître un petit peu, un bout, avoir un petit dossier, avoir une telle masse d'informations aussi juste, aussi précise en aussi peu de temps, moi je dis plutôt chapeau.
Alors, la question, une fois qu'on a dressé ce constat, hein, même si je minimise pas le travail que vous avez fait, qui est considérable évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que il faut revoir le fonctionnement de ce droit à l'image, revoir les législations qui existent ? Est-ce qu'il faut limiter les salaires, les rémunérations qui sont à côté ? Alors, je sais pas, peut-être vous, Étienne Moiti, est-ce que vous avez des pistes ?
Bon, écoutez, moi, personnellement, j'ai pas de pistes. Le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, il en a quelques-unes. Ça peut être une des solutions, en tout cas pour la France. Lui, il essaie de réintroduire un droit à l'image collective, donc dans la loi, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie de la rémunération donc des sportifs, notamment des joueurs de foot, qui pourrait être faite en droit à l'image, c'est-à-dire que ce serait plus avantageux donc pour les clubs, pour celui qui paye. C'est une revendication assez ancienne des clubs français. Ils l'ont eu à un moment donné, ça s'appelait le DIC. Ça a duré quelques années, puis ça a disparu.
Pour droit à l'image collective.
Voilà, hein, et donc c'est ça qui va être le cas en France. Est-ce que c'est une solution ? Non, ça empêchera pas de toute façon. Et là, pour le coup, on voit qu'il y a peu de clubs français, voire pas du tout, qui sont concernés par les révélations qui ont été faites.
Il y a une chose qui m'a choqué dans ce qu'on a découvert. Alors peut-être vous direz que je découvre la Lune, mais... il y a tout un tas de pays qui mettent en place des législations pour amoindrir la fiscalité des footballeurs. Ça a été le cas en Espagne, mais ça a aussi été le cas en France, où il y a des régimes qui s'appellent des régimes d'impatriés, qui font que quand on n'a pas passé les dernières années en France, on paye moins d'impôts sur le revenu, ou sur le droit à l'image d'ailleurs. Et ça a été mis en place dans plein de pays pour attirer les meilleurs joueurs. On se dit, s'ils payent moins d'impôts, les meilleurs joueurs vont vouloir venir vers chez nous. On voit ce que ça a donné en Espagne, parce que Ronaldo est un très bon exemple pour ça. C'est-à-dire, sur les années 2009-2014, il a ce régime fiscal très avantageux qui fait qu'il paye très peu d'impôts. Il aurait eu à payer sur 5 ans 2 millions d'euros, ce qui pour lui constitue rien du tout. C'est vraiment, quand il tourne une journée de publicité, c'est 2 millions d'euros. Donc, une journée de publicité lui aurait financé 5 années. Et malgré tout, il rentre dans un système hyper dangereux pour lui, hein. Hyper dangereux parce qu'il peut se faire redresser fiscalement, parce qu'il peut y avoir des poursuites judiciaires, parce que ça détériore son image, mais il préfère ça, lui ou son entourage, pour ne pas avoir à payer d'impôts. Donc ça fait réfléchir aussi sur le thème des législations quand on nous dit, bon, bah, si on baisse l'impôt, les plus grandes fortunes vont revenir en France.
Et concernant le football, on parle de ces révélations, elles ont pour une grande part largement négatives. Il y a eu une petite pépite, quelque chose d'assez savoureux, qui a fait un petit peu rigoler, et finalement qui a fait plaisir à pas mal de monde, c'est les révélations concernant Karim Benzema.
Alors j'allais y venir justement.
Voilà, il a lui aussi évidemment une société de droit à l'image, parce qu'il fait réellement donc des campagnes publicitaires, Karim Benzema, qui est largement décrié en France et pas que. Et on s'est rendu compte grâce à ces révélations que Karim Benzema, sa société d'image, était basée en France, là où c'est le moins avantageux pour lui, elle n'est pas dans un paradis fiscal et elle n'est même pas en Espagne où serait moins avantageux pour lui.
Légalement, en toute légalité,
ce serait plus avantageux pour lui. Voilà,
donc. Mais alors, comment vous l'analysez ? Est-ce que vous l'analysez finalement comme effectivement, ça ne concerne que quelques joueurs, ou est-ce que vous allez encore plus loin et vous dites, bon, finalement, toutes ces révélations qui arrivent, ça fait quand même des années, hein, les leaks, on en a un paquet, WikiLeaks, LuxLeaks, dont on a parlé encore aujourd'hui dans le journal, est-ce que ça commence à faire son chemin ? On a un peu peur de se faire avoir. Comment vous le voyez ?
Benzema, le pire, c'est que lui, quand on a voulu lui demander à lui aussi de commenter ses actes, bah lui non plus n'a pas voulu répondre. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a fait savoir par son agent, c'est quoi que je dise, ça sera mal interprété. C'est-à-dire, il a un stade où il pense quoi, c'est terrible. Quoi qu'il va dire, on va penser soit qu'il fait la morale.
Mais a-t-il vraiment tort ?
Non, je pense qu'il n'a pas tort. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit. Mais alors, qu'est-ce qui a guidé son choix ? Je sais pas. Il a été interrogé après un match de Ligue des Champions la semaine dernière. Il a dit, je paye mes impôts, tranquille. Voilà, il y a pas de questions à poser. Qu'est-ce qu'il avait en tête ? Je sais pas. J'ai vu plein de dessinateurs qui s'amusaient comme s'il allait se faire moquer dans le vestiaire du Real Madrid. Ah, il paye des impôts, le con, etc.
Ça, c'est fort possible. Parce que l'aspect de la rémunération est extrêmement important dans un vestiaire de foot. Vous êtes jugé par rapport à la rémunération que vous obtenez. Et c'est une discussion permanente. Donc je ne sais pas si les joueurs du Real s'échangent des tuyaux, de savoir où est-ce qu'il est le mieux de mettre sa société qui gère le droit d'image, en quel paradis fiscal. Mais en tout cas, c'est sûr que Benzema, sur cette affaire-là, il a dû se faire chambrer.
Nous, on a eu accès à quelques échanges. Et quand le Real apprend que Benzema va se faire contrôler fiscalement, leur premier réflexe, c'est de dire, on a les mêmes,
oui, ils pensent que
de
oui.
Dire, bon, bah, il a dû faire comme les autres, se mettre dans un paradis fiscal, on va lui expliquer comment se défendre.
Et ils sont finalement très surpris qu'il soit si clean. Merci beaucoup à tous les deux, Michael Eschdenberg de Mediapart, Étienne Moiti, journaliste à l'équipe. Merci à Florence Ponce, à Valentin Vaner. On se retrouve demain pour un nouveau débat sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.